décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 3, salut Manu.
Salut Nolwenn.
Salut Nico.
Salut Christian.
Salut Luc.
Bon, eh bien, sommaire.
Pour la semaine 3.
L'humanité, Rémy Bull, l'État ne fait rien pour résister à l'entrisme de ces grandes firmes, un article de Laurent Mouloud.
Donc c'est la section éducation de l'April qui défend justement le logiciel libre dans les institutions, surtout l'éducation nationale, où il y a Microsoft.
Le monde informatique, l'Inagora versus BlueMind, première manche gagnée par le second. Un article de Bastien Lyon.
Donc c'est un vieux sujet qui est en ce moment devant les tribunaux. Il y a deux sociétés qui font plutôt du libre, et il y en a une qui attaque l'autre pour différentes raisons. Donc c'est la deuxième qui a gagné pour l'instant.
Euractiv, directive copyright, un débat impossible en France, un article de Pierre-Yves Baudouin.
Donc ça parle des changements de droits d'auteur qui sont en train d'être mis en place en ce moment en Europe, qui sont en train d'être discutés, l'article 11 et l'article 13 surtout.
Alors, nouvelle du jour, ça a été abandonné.
Non.
Et si. Donc, des bonnes nouvelles.
Bonnes nouvelles, je suis sûr qu'on en parlera dans les semaines qui viennent, parce que c'est quand même important.
ZDNet France, MongoDB, la nouvelle licence SSPL fait grincer des dents dans l'open source, un article de Stephen J. Vaughan Nichols.
Donc c'est un sujet assez technique et légal, donc sur des licences et comment s'organise l'utilisation d'un certain logiciel. Sa licence est en train de bouger, et est en train de devenir plus stricte, plus libre de certains points de vue, mais en fait, faut voir, en tout cas ça fait grincer, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'aiment plus ce logiciel à partir de maintenant, notamment Amazon, qui l'utilisait avant et qui va passer à d'autres briques.
France Culture, les hackers sont-ils de nouveaux pirates, un article d'Antoine Garapon.
Donc ça parle de piratage, quartier pirate, même de Wikipédia, donc pas mal de choses intéressantes, d'éthique entre autres. Donc allez jeter une oreille, parce que c'est un podcast qui est derrière.
La Tribune, en plus du grand débat, l'État veut aussi votre avis pour réguler le numérique, un article d'Anaïs Chérif.
Après le grand débat effectivement qui est en cours, là ils veulent rediscuter, le numérique doit évoluer, il y a peut-être des évolutions qui vont pas nous plaire, qui sont en train d'être discutées, notamment sur l'anonymat il me semble.
On en reparlera effectivement. Développé.com, il y a une raison simple pour laquelle votre nouveau téléviseur intelligent était si abordable, un article de Stan Atkins.
Je ne me rendais pas compte qu'il était si abordable que ça, mais en tout cas, effectivement, quand on vous écoute en permanence, il y a une petite possibilité de faire de l'argent avec ce qui est écouté, c'est de le revendre. Et donc ça me fait baisser les prix drastiquement des téléviseurs. Donc il y a Richard Stallman, le fondateur du logiciel libre, qui donne son avis sur le sujet.
Donc le sujet de la semaine, Manu, c'est toi qui l'apporte.
Donc le doxing, qui vient de se passer notamment en Allemagne, mais qui est un sujet récurrent. Doxing, ça veut dire ?
En gros, des gens qui décident d'attaquer une personne et donc qui vont, par tous les moyens possibles et imaginables, essayer de récupérer les numéros de téléphone, numéros de passeport, les comptes en banque, les adresses, enfin tout ce qu'ils peuvent trouver sur cette personne-là, pour après essayer de lui causer du tort ou mettre ça à disposition de gens, n'importe qui, ou juste l'emmerder, quoi.
Le nom et les informations sur les enfants, l'employeur aussi, qui peuvent être importantes, qui peuvent avoir des conséquences faramineuses, parce que quand on est dans des sujets un peu chauds, eh bien, il y a des gens qui peuvent débarquer chez vous.
Serait-ce que rappeler son employeur pour pourrir la personne devant son employeur et causer des troubles. Et personne n'a envie que son patron se fasse appeler tous les 4 matins par des gens qui disent ah, « personne, c'est un salopard, c'est que c'est pas très bon ».
Alors le sujet d'actualité, parce qu'il vient de se passer sous cela en Allemagne, au niveau des hommes politiques, il y a un petit jeune qui s'est permis de lâcher pas mal d'informations.
Ouais, il a récupéré beaucoup de données sur les partis politiques, en particulier les membres des partis politiques allemands, sauf de l'extrême droite, hein, parce que cette personne était quand même plutôt à forte connotation...
Antisémite et raciste,
voilà, tout ça. Et aussi, tout ce qui était du domaine du divertissement, où il y a eu des youtubeurs ou autres qui se sont aussi retrouvés dedans. Et donc, sur les scandales d'argent, de combien ils payaient, combien ils gagnaient, comment ils achetaient des vues, etc., ça a traîné un peu partout.
Il a feuilletonné un petit peu les informations qu'il a fait sortir, et il a terminé, il semblerait, ses dernières informations par Angela Merkel, où il a révélé son adresse personnelle, si j'ai bien compris. Alors, ça s'est terminé au poste, il a été retrouvé, et il semblerait que ce n'était pas un grand pirate, pas un hacker fameux, mais ce qu'on appelle un script kiddie.
C'est ça, c'est un noob, un gamin dans son coin, qui a juste utilisé les moyens qu'il avait à disposition. Hein. C'est vrai que n'importe qui peut s'amuser à ça sur Internet aujourd'hui. Les données sont accessibles un peu partout. On peut essayer d'envoyer des mails de phishing ou de pire
monter.
D'envoyer un faux mail en fait en se faisant passer pour.
Hameçonnage, je crois.
Hameçonnage en français. Le but, c'est comme ça d'y aller de proche en proche et de récupérer plein de données en se faisant passer pour X ou Y ou une connaissance ou autre. Et puis comme ça, on fait une grosse base de données derrière.
On peut aller plus loin. Je sais qu'aux États-Unis, il y a eu pas mal de sujets qui concernaient le doxing et qui ont été plus loin parce que il y a des petits jeunes qui ont utilisé des adresses pour appeler le SWAT et pour que le SWAT débarque en disant attention, il y a de la drogue chez un tel qui habite à tel endroit.
Le SWAT, c'est les groupes d'intervention, hein. Donc c'est les gros bras musclés avec des gros flingues
et ça s'est mal passé.
Les portes. Oui, oui.
Ça s'appelle faire du SWAT swatting, c'est une évolution du doxing, on pourrait dire. Et il y avait des petits malins aux États-Unis qui s'amusaient à faire ça.
Il y a même eu des morts, hein, puisque quand on est noir, malheureusement, aux États-Unis, que le SWAT débarque chez vous,
ça attire les balles. Hein. Enfin,
ça attire assez les balles et votre espérance de vie chute drastiquement. Et malheureusement, il y a eu effectivement des morts à cause de ça.
Donc là, on a plein de gens qui mettent en œuvre des trucs plus ou moins sophistiqués, mais on peut très bien récolter des informations sans avoir recours à des méthodes de pointe. Simplement, voilà, les gens s'expriment ouvertement sur Internet et peuvent lâcher des tas d'informations. Quand on s'exprime sur Facebook, sur Twitter ou des tas de choses, tout ça va être plus ou moins public. Quand on raconte sa vie, il y a des infos qui sortent et il suffit d'éplucher les trucs et puis de remplir les cases et de remplir les trous faire du recoupage et reconstruire un truc comme ça. On peut très bien dire, bah voilà, à tel moment tu as dit telle chose, alors je sais que tu travailles dans tel domaine et puis je sais qu'à tel moment tu as travaillé à tel endroit, etc. Et potentiellement, en faisant des déductions, on peut retrouver par exemple l'entreprise dans laquelle on bosse ou des choses comme ça.
Mais après, ça c'est le genre de choses qu'on peut refaire très facilement avec différents réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn ou d'autres. C'est-à-dire que juste en connaissant l'identité de la personne, on peut avoir une idée de son âge. Rien qu'avec le nom-prénom, si on va sur LinkedIn et qu'on sait que c'est bien la personne, on peut savoir quelles études la personne a fait, où est-ce qu'elle a travaillé, quel poste elle a occupé, ou même où est-ce qu'elle travaille actuellement, et essayer de déterminer éventuellement son salaire, par exemple, si on veut essayer de faire du chantage ou un truc de ce genre.
Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils n'ont rien à cacher. On avait fait une émission là-dessus il y a très longtemps. Mais en général, quand les gens se font doxer, ils ne sont pas contents du tout parce qu'ils voient toute une série d'infos perso, leur numéro de téléphone, leur machin, et soudain, ils ont l'impression d'être peu à poil sur Internet. Et soudainement, en général, ces gens se disent « Ah ouais, je pensais avoir rien à cacher. » J'ai vu ça une fois, hein, quelqu'un qui témoignait de ça. Et il disait « Bah moi, je pensais que j'avais rien à cacher. » Puis le type, il m'a tout affiché. Ben, depuis, je fais super gaffe.
Alors, vous avez peut-être, chers auditeurs, reçu des mails il n'y a pas longtemps disant « Attention, je suis un hacker et j'ai obtenu des informations personnelles sur toi avec ton identifiant, ton mot de passe et je sais qu'est-ce que tu regardes comme porno et j'ai des photos de toi qui ont été prises sur ta webcam. » Donc, moi, j'ai reçu ce mail-là des dizaines de fois. Hein, ça passe dans mon répertoire de spam. Mais il semblerait qu'il y a eu des fuites sur Internet de ces données-là et ça correspond un petit peu à cette idée. On a des informations sur Internet et il y a des gens qui vont les utiliser pour essayer de nous faire changer. Donc, méfiez-vous tous, hein. C'est en train de circuler en ce moment même.
Surtout en ce moment où il y a une énorme base de données qui a été publiée la semaine dernière, qui contient des 600 millions de logins et de mots de passe dedans. Donc c'est une grosse collection de plein de trucs qui étaient déjà fuités auparavant, hein. Plus de 300 ou 600 sites internet, enfin, c'est juste un truc colossal. Ces données-là, effectivement, sont réutilisées après pour essayer de se connecter à vos comptes en banque, parce que généralement, tout le monde utilise le même mot de passe partout. Donc les comptes en banque, vos adresses mail, essayer de faire du chantage derrière. Et du coup, si vous voulez voir si vous êtes impacté, vous pouvez aller sur le site haveibeenpwned.com.
C'est en anglais,
malheureusement.
Est-ce
que je me suis fait avoir? Et du coup, vous rentrez votre adresse mail et ça vous dit tel service a fuité, donc voilà votre mot de passe. Et comme ça, vous pouvez voir et changer après vos données.
Alors, pour rappel, depuis quelques temps, la loi oblige les entreprises qui ont eu des données fuitées ou des bases de données piratées à informer la CNIL, à le déclarer à la CNIL et aussi à prévenir les personnes qui étaient dans cette base.
Et on est obligé de s'appuyer sur leur bonne foi et leur bonne volonté. Et souvent, il y a beaucoup de retard.
Effectivement, mais toutes les semaines, on a des annonces et des choses qui sortent et qui sont impressionnantes.
Bon, là, on est quand même dans le domaine du piratage pur et dur.
Mais ça veut dire qu'aucune de nos informations personnelles, même si on a les bonnes pratiques, n'est à l'abri d'être révélée sur Internet. Moi, je pense à des trucs encore pires que ça, des trucs institutionnels. La base des passeports et des cartes d'identité en France est en train d'être unifiée. Ils veulent mettre des données biométriques dedans et ils nous garantissent que ce ne sera pas volé. Sauf qu'on a un cas contradictoire, c'est en Inde, où le milliard d'habitants indiens, de citoyens indiens, est dans une base de données qui a fuité sur Internet.
Sachant que le système indien était fait par une boîte française en plus, hein, donc...
Ah bah ça rassure, hein.
Et ça risque d'être la même qui fait ça le français.
Il me semble qu'ils avaient beaucoup d'informations personnelles dedans et d'informations biométriques. Et là, bah là, c'est tout sur Internet. Et donc, on est à l'abri de rien. Il n'y a aucune garantie que nos informations ne sont pas en train de circuler et ne vont pas être utilisées par des trolleurs qui vont nous pourrir derrière.
Sachant qu'avec Amélie.fr qui met en avant le dossier médical en ligne, c'est pas forcément très rassurant.
Il faut arrêter d'être malade tout de suite.
Rappelons qu'aux États-Unis, il y a des bases de données sur les citoyens américains et qui contiennent 3000 informations sur chaque Américain. Donc c'est colossal, ça existe, ça circule, et donc faut essayer de contrôler ce qu'on émet.
Aux États-Unis, il y a des bases sur la quasi totalité de la population mondiale, ça s'appelle la NSA, mais...
Ou Google.
Alors c'est dans l'actualité aussi, on peut penser que le premier citoyen français est dans la base de données de la NSA en premier lieu parce qu'il utilise
Gmail. Voilà, Emmanuel Macron qui s'est fait avoir à utiliser Gmail de manière personnelle. A priori, il ne s'en servait pas pour ses fonctions de président. Et bon, voilà, il avait tendance à la distribuer à peu près partout.
Alors, sur cette question de doxing, pour revenir un peu, parce que là on parle de piratage, et à mon sens, ce n'est pas tout à fait la même problématique. Macron, aujourd'hui, ou enfin il n'y a pas longtemps, a dit et a rappelé que lui voulait combattre l'anonymat sur Internet. En disant notamment que, et c'est une réalité, il y a des gens qui racontent ce qu'ils veulent, harcèlent d'autres personnes. On a eu toute une série de cas, notamment par rapport au féminisme, et notamment au féminisme et jeux vidéo. Il y a un ensemble de féministes qui sont attaqués là-dessus, et des petits jeunes du forum 1825 de jeuxvideo.com qui sont tristement célèbres et qui ont fait des harcèlements. Une journaliste, Nadia Adam, on en a pas mal parlé dans la presse. Également des femmes qui bossent dans le jeu vidéo, qui font des analyses, etc., et qui déclenchent, c'est lamentable. Donc du coup, on peut se dire qu'effectivement, face à toutes les fake news, à tous ces trucs de harcèlement, l'absence d'anonymat, c'est plutôt pas mal, parce que ça permettrait de mettre la main plus facilement sur ce genre de gens et de les envoyer devant un tribunal.
Bah déjà que même avec l'anonymat, ils ont tenu à peu près 48 heures avant de finir en garde à vue et à peu près une semaine avant d'être condamnés, donc l'anonymat va pas changer grand chose en fait, parce que ça, globalement, c'est quand même des gens simples d'esprit et pas très malins, donc ils font beaucoup de conneries et ils se font avoir assez vite. Et puis à l'inverse, l'anonymat est quand même assez bien pratique aussi, ça permet de pouvoir parler librement, de pas s'auto-censurer sur certains sujets, parce que ça permet certains dissidents. On n'a qu'à voir par exemple en Chine où l'anonymat n'existe quasiment plus, il n'y a pas non plus de contre-pouvoir politique ou autre. L'anonymat est aussi pratique pour garantir le droit et devoir d'un citoyen.
Ça permet de confronter les idées sans forcément avoir des conséquences néfastes sur sa vie, ça permet de mettre en avant des choses qu'on ne ferait pas en public. C'est un petit peu comme des gens qui auraient des comportements privés qui ne sont pas forcément tolérés par leur environnement, on ne doit pas forcément les interdire pour autant.
Il y a l'exemple d'Ashley Madison qui était un site de rencontre extra-conjugale aux États-Unis qui est tombé et où les infos sont devenues publiques. Dans le tas, il y avait notamment un certain nombre de militaires qui ont été assez stupides pour mettre leur adresse professionnelle, sachant que dans l'armée américaine, il est dit que tu n'as pas le droit de pratiquer l'adultère, c'est interdit et on se fait virer de l'armée pour ça.
Il y avait des hommes d'église.
Oui, aussi, il y a eu des gens qui sont suicidés derrière. Et effectivement, on peut vouloir compartimenter sa vie et se dire que on peut avoir une sexualité débridée ou avoir n'importe quoi d'autre.
Des opinions politiques,
avoir un humour de merde.
Aussi pour séparer certaines facettes de sa vie publique. Par exemple, je pense à Maître Eolas, qui est un avocat très connu. Tout le monde le connaît au barreau et si on bosse avec lui, on va le connaître. Mais il a besoin de séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle parce qu'il a envie d'avoir
sa vie numérique.
Et de sa vie réelle. Et on a Zitome aussi qui est dans le même cas, qui est expert numérique près des services de police. Et donc il doit pas donner son identité, ou en tout cas pas facilement. Donc quand on le connaît bien, on a accès, on sait exactement qui c'est, etc. Mais il a besoin de segmenter sa vie pour protéger certaines choses.
Dans le doxing, justement, c'est l'idée de rendre ces trucs publics. C'est-à-dire que, je pense par rapport à ces gens-là, je pense qu'un certain nombre de journalistes qui les connaissent, qui savent, etc., mais qui gardent ce secret. Et ça existait déjà avant, quand on avait des pseudos et des gens qui écrivaient des livres, ou qui,
on a un certain nombre des présidents de la République qui avaient des enfants, et tous les journalistes le savaient, mais personne d'autre.
Par exemple. Mais il y a plein d'auteurs qui écrivaient sous différents noms parce qu'ils écrivaient des choses radicales. Différentes et qu'ils ne voulaient pas mélanger ces éléments-là. Mais le doxing, c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions et qui, du coup, va justement faire ce qu'on ne veut pas. Donc, en ayant de l'anonymat et en faisant un petit peu attention à pas donner trop de détails, etc., on peut minimiser les risques. Voilà, il faut quand même se dire que toutes ces informations-là, il faut qu'on soit capable de les assumer un jour ou l'autre.
Il faut faire comme si tout sera utilisé contre nous à un moment donné, et effectivement, il n'y a pas 36 solutions pour s'en protéger, il faut les assumer.
Quand on a des adversaires, ils vont tout interpréter dans le sens qui nous sera le moins favorable, et donc ça peut arriver effectivement dans une chose.
Et surtout qu'avec le numérique aujourd'hui, c'est accessible de partout, n'importe quand, facilement, et quand une fuite de données arrive, c'est tout de suite mondial.
Même
10 ou 20 ans après, le web n'oublie rien. Et ça, c'est assez dramatique. Avant, c'était assez facile. Quand on faisait 20 km ou 50 km, c'est bon, on était tranquille. Maintenant, il va falloir changer de planète. Et encore, on commence à coloniser celle d'à côté.
Bon, alors du coup, on arrête l'informatique. C'est trop dangereux.
On va habiter dans les bois.
Ok, nous, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
Salut.